VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bienvenue dans notre journal. On commence par la visite du président guinéen Alpha Condé aux États-Unis. Le professeur Condé a accordé hier une interview à VOA Afrique. Au micro de Nicolas Pineau, il a démenti que les forces de l'ordre en Guinée aient tiré à balles réelles lors des récentes manifestations à Conakry. Et il s'est plaint de l'absence d'union dans le pays en cette période de lutte contre l'Ebola.
Bon, vous savez, l'Ebola est un problème national. Nous avons lancé un appel à tout le monde, les sociétés civiles, les partis politiques, pour qu'on fasse l'union sacrée, parce que l'Ebola c'est une guerre, pour qu'on mène la guerre contre l'Ebola, afin de mettre fin à l'Ebola. Bon, évidemment, il est souhaitable que tout le monde se mobilise d'abord pour mettre fin à l'Ebola, ce qui n'explique pas, parce qu'au moment où on fait l'urgence sanitaire renforcée, normalement, il ne devait pas avoir de manifestation ni de mouvement de foule.
Mais les forces de l'ordre ont-elles tiré à balles réelles sur les manifestants?
Ce n'est pas vrai. Vous regardez les forces de l'ordre, vous pouvez prendre les films, vous avez des collaborateurs là-bas. L'armée est casernée et la gendarmerie et la police n'ont pas d'armes. Ils ont des armes non létales, c'est-à-dire les grenades lacrymogènes. Par contre, vous avez des civils qui tirent sur les gendarmes avec des fusils de chasse. Si vous allez, beaucoup de diplomates peuvent vous confirmer qu'ils ont été voir les gendarmes à l'hôpital. Maintenant, je ne sais pas d'où viennent ces informations de dire qu'on a tiré. Dans aucun des hôpitaux, il n'y a eu aucun seul mort. Et les gendarmes ne tirent pas à balles réelles.
Le président guinéen Alpha Condé. Au Togo, poursuite de la campagne électorale en vue des présidentielles du 25 avril, la conférence épiscopale togolaise a décidé de ne pas envoyer des observateurs au scrutin. Les raisons de cette décision avec notre correspondante à Lomé, Kayi Loyson.
Les premiers observateurs internationaux pour le scrutin du 25 avril prochain commencent à arriver au Togo. Aux côtés de ces internationaux, les organisations de la société civile togolaise vont aussi observer cette présidentielle. Un absent de taille parmi les observateurs nationaux est l'Église catholique du Togo. La commission épiscopale justice et paix veut s'abstenir de toute mission d'observation. Professeur Magloire Kwakubi, président diocésain Lomé de cette commission.
Le pouvoir togolais a utilisé l'Église pour la CVJR. Et depuis avril 2012, les recommandations sont restées dans le tiroir. Dans ces recommandations, il fallait les réformes constitutionnelles et institutionnelles pour apaiser le pays. Donc, nous nous sommes dit que, comme on n'a pas fait les réformes constitutionnelles et institutionnelles, nous n'allons pas observer parce que c'est comme si on se servait de l'Église pour avaliser des forfaitures juridiques dans un pays qui aspire à être un état de droit, mais qui, en fait, n'a pas cure des droits de l'homme.
Au-delà de ces raisons, la Commission épiscopale du Togo estime avoir tiré les leçons de l'observation de l'élection présidentielle de 2010, précise le professeur Magloire Kwakubi.
Nous avons eu beaucoup de problèmes en 2010. Une fois que nous avons observé, de mauvaises langues ont fait courir le bruit que l'Église connaissait les résultats et les gardait par-devers soi, ce qui n'est pas vrai du tout. Aucun groupe d'observation ne donne les résultats d'une élection. Nous sommes des commissions justice et paix. Nous ne sommes pas des commissions justice et guerre.
Sur le terrain, les candidats à cette élection présidentielle de 2015 continuent à battre campagne. Dans le pays, les consignes de vote vont bon train. Si les uns accordent leur soutien à tel ou tel candidat, certains partis politiques et autres associations appellent au boycott du scrutin. Le grand enjeu de cette présidentielle sera donc le taux de participation. Kayi Loyson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
République démocratique du Congo, le département d'État américain exprime son inquiétude au sujet de la détention prolongée de jeunes activistes pro-démocratie par les autorités congolaises. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Le département d'État se dit particulièrement préoccupé que ces jeunes gens soient détenus sans inculpation et sans accès à des avocats. Dans un communiqué publié hier, la porte-parole intérimaire du département d'État, Marie Harf, a évoqué les cas d'au moins trois membres du mouvement Filimbi, interpellés le 15 mars lors d'une manifestation pacifique de la société civile à Kinshasa et détenus depuis lors. Madame Harf a aussi relevé les cas d'au moins quatre membres de l'organisation Lucha, arrêtés dans des circonstances similaires à Goma, dans la province du Nord Kivu, et qui sont eux aussi en prison. Washington appelle le gouvernement de la République démocratique du Congo à veiller à ce que ces activistes et tous les détenus fassent l'objet d'une procédure judiciaire en bonne et due forme et qu'ils soient immédiatement remis en liberté si aucun chef d'accusation n'est retenu contre eux.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Soudan, début du dépouillement du vote après 4 jours de scrutin. Les deuxièmes élections multipartites dans le pays depuis 1989. Le président Omar al-Béchir et son parti sont pratiquement assurés de remporter la victoire. Morgane Guiriec.
Les élections ont commencé lundi et devaient se terminer mercredi, mais ont été prolongées d'une journée. Cependant, le vote se poursuivra ce vendredi dans l'état de Jazira, dans le centre du pays, en raison de problèmes dans le transfert de bulletins dans 152 bureaux de vote. Certains bureaux resteront ouverts jusqu'à samedi dans une région du Darfour Nord. Les résultats sont attendus à la fin avril. Âgé de 71 ans, le général Omar el-Béchir est presque assuré d'être réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il avait en face de lui 15 candidats, très peu connus, dont 2 se sont retirés en dénonçant des irrégularités. La majorité de l'opposition avait appelé au boycott et apparemment le taux de participation a été faible.
Au Kenya, la question de la présence des troupes kenyanes en Somalie divise la classe politique. Suite à la sanglante attaque des militants du groupe islamiste somalien Al-Shabaab contre l'université de Garissa dans le nord-est du pays. Tous les détails avec Timothée Donangmaï.
Depuis l'arrivée au pouvoir du président Uhuru Kenyatta en avril 2013, plus de 400 personnes ont péri dans des attaques terroristes dans son pays. La plus meurtrière étant celle de Garissa, qui avait fait 148 morts. Pour le sénateur Bulo Kero du comté de Mandera, une des zones kenyanes les plus touchées par les attaques de ces derniers mois, les troupes kenyanes doivent se replier aux frontières. Je pense que les forces de défense du Kenya doivent se redéployer pour créer une zone tampon d'environ 50 km ou plus à la frontière, mais pas à Kismayo ou dans les autres villes. Le sénateur Kero a fait remarquer que dans le comté de Mandera, qui partage 270 km de frontière avec la Somalie, on compte moins de 200 soldats et une ou deux casernes, alors que selon lui, il faut des soldats kenyans tous les 20 ou 30 km le long de la frontière. Par contre, Ali Roba, gouverneur du comté de Mandera, que citent les médias kenyans, veut que les soldats kenyans restent en Somalie. Monsieur Roba, qui a survécu à plus de 2 attaques, pense que les troupes kenyanes y font un bon travail. L'opposition kenyane estime que l'implication du Kenya en Somalie n'est pas étrangère à la récente vague d'attaques terroristes à travers leur pays. Pour le sénateur James Orengo, membre de l'opposition, une insurrection est en préparation au Kenya et les troupes nationales doivent rentrer pour combattre les réseaux terroristes locaux. La menace d'Al-Shabaab se manifeste d'une manière différente. Cette insurrection externe est en train de devenir une menace vraiment interne. Nous apprenons qu'ils essaient de recruter des Kenyans pour rejoindre Al-Shabaab en Somalie et ils engagent des Kenyans plutôt que des Somaliens pour leurs activités illégales au Kenya. De l'avis du vice-président kenyan William Ruto, ceux qui exigent le retrait des troupes kenyanes répondent en fait à l'appel d'Al-Shabaab. Le débat exigeant que nos forces reviennent au Kenya est inutile. Les Shabaab sont ceux qui disent que nous devrions retirer nos forces de la Somalie. Alors comment vous, dirigeants kenyans, pouvez-vous vous joindre à Al-Shabaab pour demander de retirer nos forces? Seriez-vous Al-Shabaab? Le groupe de suivi des Nations Unies pour la Somalie et l'Érythrée chiffre à 500 le nombre de jeunes ayant rejoint Al-Shabaab en Somalie. Les autorités kenyanes ont accordé une amnistie de 10 jours aux jeunes kenyans se trouvant dans cette situation, leur enjoignant de signaler les insurgés à la police et de dénoncer la violence. Bien accueillis par les leaders musulmans, la mesure est rejetée par leurs homologues chrétiens qui estiment qu'une telle amnistie revient à céder au terrorisme.
Conflit au Yémen, appel du secrétaire général de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans le pays où la coalition arabe sunnite menée par l'Arabie saoudite bombarde les chiites rebelles houthis qui seraient soutenus par l'Iran. Ban Ki-moon dit que le Yémen est en feu et que la seule solution pour toutes les parties réside dans un arrêt des hostilités suivi de négociations. Et pour terminer, le Nigeria n'a pas besoin d'aide militaire de l'ONU. Les Nations Unies devraient plutôt se concentrer sur l'assistance sociale et l'assistance humanitaire. C'est ce qu'a déclaré hier le président sortant nigérian Goodluck Jonathan après avoir reçu les représentants de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à savoir Mohamed Ibn Chambas et Abdoulaye Bit Batili. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info.